un autre rituel qui est très important, qui vient du bouddhisme ésotérique, notamment Shingon, qu'on pratique sur le mont Koya, c'est la marche sur les braises. Donc tout d'abord, il y a le rituel du feu, le goma. On se trouve normalement sur le parvis devant un temple où on a préparé un bûcher. On est dans une enceinte sacrée qui est délimitée par une corde. Donc normalement, c'est un carré et à l'intérieur, on va retrouver le bûcher. Il faut d'abord purifier ce carré, donc on le fait par exemple en lançant des flèches avec un arc dans les quatre directions du ciel pour chasser le mal. Il y a l'entrée des Yamabushi qui vont en procession, ils vont pénétrer cette enceinte en jouant de la conque, le horagai. Ça c'est assez impressionnant quand on voit un groupe d'une vingtaine de Yamabushi qui sonne cet instrument et il y a ce son très profond qui remplit l'air et qui donne un écho. Et après, quand le bûcher enflamme, il est presque consommé, on va faire la marche sur les braises. Donc ça aussi, c'est plutôt réservé aux Yamabushi déjà un peu plus expérimentés. Ça aussi, le feu est purificateur aussi. Il y a aussi une divinité qui est extrêmement importante pour les Yamabushi, c'est Fudo Miyo. On va le rencontrer sur certains lieux de culte. C'est une divinité qui a une expression un peu extatique, on dirait fâchée même, mais c'est plutôt de l'extase. Elle porte dans une main les flammes, donc c'est vraiment la divinité du feu. Dans l'autre, un lasso, une corde et un glaive. Si le pratiquant a tendance à s'échapper de la pratique ou à perdre sa discipline, Fudo Miyo va le rattraper avec le lasso ou va lui couper les jambes pour qu'il s'échappe. On va le retrouver aussi auprès des cascades parce que l'eau aussi symbolise un peu le feu intérieur. Alors si on fait une immersion dans l'eau froide, on va avoir un effet que le corps se réchauffe et ça c'est le feu intérieur. Il y a une déesse Inari, c'est une renarde qui est la divinité qu'on invoque pour une bonne récolte. Et on a plusieurs exemples comme ça. Des divinités qui se présentent sous les traits d'un animal. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le shintoïsme et dans les sanctuaires shintoïstes. Les sommets au Japon, c'est le siège des divinités, c'est l'endroit où on est le plus proche du ciel. Donc on peut penser au mont Fuji, qui est aussi une divinité dans le shintoïsme, c'est le plus haut sommet du Japon. Donc les sommets étaient depuis les temps fort anciens, les endroits sacrés. Et je peux citer le cas du mont Omine, qui est encore aujourd'hui un haut lieu du Shugendo. Donc là, effectivement, il y a un pèlerinage qui s'effectue. On part traditionnellement du village de Yoshino. Après une douzaine d'heures d'ascension, on arrive au sommet du mont Omine, et où il y a un monastère où on peut passer la nuit. Mais en cours de route, il faut quand même passer quelques épreuves. Donc bien évidemment, c'est la marche en soi, donc c'est l'effort physique. Souvent, on se lève en pleine nuit, on manque un peu de sommeil, donc il y a vraiment l'effort physique qui compte. Ça, c'est un aspect qu'on m'a souvent répété. Donc, une des finalités de l'effort physique, c'est effectivement de se libérer de ses préoccupations, de son ego. Et donc, dans ce pèlerinage au sommet du mont Omine, il y a plusieurs épreuves. Il y a un endroit où il faut escalader une paroi rocheuse. Donc, c'est même un côté un peu dangereux parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment se concentrer là où on pose son pied. Donc là, on est un peu forcé de se concentrer pour ne pas tomber dans le vide. C'est la concentration sur le moment présent qui est un élément qu'on retrouve bien évidemment dans le bouddhisme zen aussi. Et finalement, on va arriver au sommet du mont Omine. Et l'idée en fait de ce genre de pèlerinage, c'est symboliquement, on est prêt à mourir. Et effectivement, c'était une réalité parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait vraiment la possibilité de mourir en cours de route si on se blessait, par exemple, si on tombait de la falaise ou qu'il fallait escalader. On estimait que c'était un signe des dieux et on vous secourait pas. Donc on vous laissait là-bas, mourir en montagne. Aujourd'hui c'est symbolique, hein, donc on part en montagne pour mourir symboliquement et après c'est important pour renaître. Et on revient à la vie quotidienne avec un esprit renouvelé. les Yamabushi, au moment de pénétrer la montagne qui est sacrée, ils vont s'annoncer aux dieux et aux, peut-être aux autres Yamabushi en jouant de la conque. Ils vont aussi le faire lors de certains rituels, par exemple au temple, face à des statues de Fudomiyo, la divinité du feu. Donc c'est quand même quelque chose qui joue un rôle dans les rituels, mais aussi qui sert à s'annoncer aux forces divines, à la nature, aux animaux, d'annoncer la présence. De la conque, c'est une coquille de triton, donc c'est un gastéropode marin qui vit dans le Pacifique. On peut produire 3 notes, mais il faut s'entraîner. Alors moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi à sortir un son de la conque. Un ami à moi qui est aussi Yamabushi, il s'est entraîné pendant 10 ans pour vraiment pouvoir jouer convenablement. Ça fait partie des pratiques des Yamabushi d'apprendre à jouer de la conque. Parce que c'est aussi physique pour avoir assez de souffle. Et surtout c'est physique parce qu'ils vont jouer à la conque en marchant dans les montagnes. Donc ils vont pas toujours forcément s'arrêter. Donc il faudra être en mesure de marcher, de respirer et en même temps de souffler dans la conque. Donc là, il faut plusieurs années pour y parvenir. Le mont Hagoro, c'est la montagne du présent. Le mont Gassan, c'est la montagne du passé. Le mont Yudono, la montagne du futur. Donc, ils effectuent un pèlerinage qui couvre les 3. Et les âmes des défunts sont supposées vivre sur le mont Gassan, qui est la montagne du passé. Donc là, c'est le royaume des défunts. On va découvrir des pierres tombales. Et là, c'est des proches des pratiquants des Yamabushi. Leur âme vivent sur cette montagne, en fait. Donc là, le Yamabushi a un rôle à jouer dans la connexion aux ancêtres, de relier ses âmes au monde des mortels. Et dans le cas du mont Ontake, c'est très intéressant parce qu'il y a des pratiques chamaniques très spécifiques qu'on ne retrouve que là. Il y a des Yamabushi que j'ai rencontrés qui agissent en tant que médium spirituel, donc qui reçoivent un message de l'au-delà et qui va le transmettre à un receveur qui va ensuite le verbaliser face aux croyants. Et j'ai assisté à une de ces cérémonies qui s'appelle Oza, donc c'est une cérémonie de possession. Donc on voit vraiment le médium qui est en transe, qui transmet le message des dieux. Et c'est souvent des messages des défunts, des croyants qui sont transmis ainsi. C'est le rôle de médium ou d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des défunts.
いろんな、ね、いろんなアプローチが本当あると思うからさ。あれは本当僕が大学卒業して、ま、四国一周歩き遍路終わって、で、高尾にお世話になったんですよね。勉強のため。その時午前様に。
Le fondateur du Shugendo, donc c'est une figure qui est un peu mythologique, c'était un homme du nom de Enno Gyoja, donc En la 7. C'était une sorte de sorcier ermite qui vivait seul dans les montagnes et les gens le consultaient pour des sorcelleries même, il paraît. Et donc, dans un premier temps, les Yamabushi, c'était souvent des gens qui vivaient en ermite. Après, ça a changé un peu. Ils se sont organisés dans des temples. Donc, à ce moment-là, c'était devenu plus rare de rencontrer vraiment des ermites. Sauf exception, donc il y a eu quand même aussi récemment encore des personnes qui ont choisi de vivre pendant, par exemple, il y a une ascèse sur les monts Ominé qui consiste à vivre pendant 100 jours dans une certaine caverne et de faire des rituels très précis. Aujourd'hui, on peut plus parler d'ermite des montagnes parce que c'est plus vraiment le cas, mais historiquement, le terme était correct parce qu'au début du Shugendo, c'était ça. Il s'avère en fait qu'on trouve très peu d'informations sur les Yamabushi. Alors, une des raisons est que c'est une discipline, une pratique spirituelle qui est transmise oralement. Donc, il n'y a pas d'écrit sacré comme ça peut être le cas dans le bouddhisme, par exemple. Normalement, les pratiques sont transmises de maître à disciple. Et aussi, les disciples ont le devoir de garder le secret. Donc, tous les rituels qui sont un peu mystérieux, peut-être, qui sont effectués durant les pèlerinages, ne doivent pas faire l'objet de divulgation. Donc, on connaît certains éléments, on connaît certains rituels. J'ai d'ailleurs assisté à certains rituels, mais il y a d'autres rituels auxquels j'ai pas pu assister parce que c'est réservé aux initiés. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles on trouve très peu d'informations écrites ou même en ligne. En principe, le monde des Yamabushi, c'est un monde un peu énigmatique et un peu pas trop accessible aux non-initiés. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment besoin d'une année pour mettre en place ces contacts. Certains étaient un peu méfiants. Bon, après, ils m'ont vu, ils ont compris le genre de personne que je suis. Ils ont compris en me voyant, en me parlant, qu'ils pouvaient me faire confiance jusqu'à une certaine mesure, ce qui a été le cas. Dans d'autres cas, j'étais accompagné par un ami japonais. Donc ça ouvre aussi des portes parce que c'est l'ami japonais qui va en fait discuter avec eux. Et après, il va me faire les traductions. Et là, ils sont un peu moins méfiants parce que voilà, c'est un japonais. Il y a déjà plus de confiance qui s'installe.
なんか見た感じでも。
Le problème, que les jeunes générations ne s'intéressent pas forcément aux spiritualités traditionnelles au Japon, c'est un peu comme partout. Donc, il y a certains groupes qui maintenant vont insister sur ce côté de reconnexion avec la nature. Donc, il y a ce groupe au Mont Hagoro, par exemple, qui est présidé par Maître Oshino. Donc, ça, c'est un Yamabushi de 80 ans que j'ai rencontré, qui est Yamabushi dans la 17e génération. Donc, c'est vraiment une famille de Yamabushi. Et lui, il prône un Shugendo qui est très très proche de la nature et de la contemplation aussi de la beauté de la nature. Et lui, il m'a dit que, bon, en tant que Yamabushi, il n'a aucun enseignement à me donner ou à donner aux gens qui viennent le voir. Son seul rôle, selon lui, le rôle de Yamabushi, c'est de relier les gens à la nature. Ça prend tout son sens au Japon, si on considère qu'il y a vraiment des populations qui vivent dans les grandes villes comme Tokyo, à une agglomération de 30 millions d'habitants, avec des gens qui travaillent beaucoup et qui ont très peu de congés, donc qui sont vraiment coupés du monde naturel. Ce genre de public, c'est un peu le public cible de certains groupes de Yamabushi qui voient là une occasion pour agir en tant que guide pour en fait favoriser cette reconnexion avec les éléments naturels à destination des citadins des grandes villes.
C'était Yamabushi, les ermites du Japon, second épisode. Avec le paléontologue Robert Weiss. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.